voudrais d'abord vous transmettre les salutations de Michel Sommer et puis vous dire merci de me faire confiance pour me donner cette opportunité de partager ça avec vous. Sophie, est-ce que ça passe ou ça passe pas? Ça va venir. Mais je peux commencer quand même. Ouais, ce que je trouve fantastique dans la Bible, c'est qu'elle nous parle à travers toute une variété de types de textes. Des textes de loi, des poésies, des textes prophétiques, des paraboles, des discours, des lettres, puis des histoires. Les histoires qui nous marquent souvent, on les a pour la plupart d'entre nous entendues dès notre enfance. Noé et son bateau, les amis de Daniel dans la fournaise, Moïse et son bâton qui se transforme en serpent, ce fils qui revient vers son père après avoir vécu parmi les cochons, Paul rendu aveugle pour mieux entendre Jésus. Tout ça, ça constitue une toile de fond, une galerie de personnages et de faits qui résonnent dans notre mémoire. On est vraiment familier avec ces histoires. Ou en tout cas, on en a l'impression. La Bible nous raconte des histoires. Elle décrit les personnages par leurs actions, par leurs paroles, sans trop édulcorer, sans omettre leurs défauts. Elle raconte les histoires d'êtres humains, dans toute leur humanité, bons et mauvais comportements mêlés. Ce ne sont pas des contes de fées, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, comme on a parfois tendance à le simplifier. Et à travers toutes ces histoires, cette galerie chamarrée, la Bible nous raconte un grand récit, une grande histoire, celle du plan de Dieu pour les hommes dont a parlé papa. Ce plan que très rapidement on pourrait résumer ainsi, et je vais juste m'appuyer sur le livre « Plus doux que le miel » de Christopher Wright pour une partie de ce que je vais dire ce matin. Ce plan, c'est d'abord la création, la chute. Sophie, merci. La promesse, malgré tout, de remettre les choses en ordre, malgré tout, à travers un peuple en particulier. Puis quatrièmement, l'évangile, avec la venue de Jésus comme Messie d'Israël et Sauveur du monde. La mission, cet entre-deux où l'Église est appelée à continuer de porter la bénédiction de Dieu à toutes les nations de la terre. Et enfin, la nouvelle création, avec le retour annoncé de Christ. Je vous propose de retourner dans ces grandes étapes du récit de Dieu, à l'étape 3 du récit. C'était donc la promesse de rétablir... Non, tu peux revenir un tout petit peu en arrière. La promesse de rétablir la relation entre Dieu et les hommes, Dieu qui se choisit un peuple pour bénir toutes les nations à travers lui. Et plus précisément, au moment de l'histoire qui va nous intéresser ce matin, Dieu a déjà réalisé certaines promesses. Nous sommes après qu'Israël est sorti d'Égypte, après que le peuple s'est installé en terre promise. Mais Israël n'a pas encore conquis la totalité du territoire, y compris la localité de Jérusalem. Il y a donc des promesses qui restent à réaliser. Rendons-nous au Xe siècle avant Jésus-Christ. Saül est roi. Roi demandé de toutes ses forces par le peuple qui veut être guidé par cet intermédiaire. Et Dieu a accordé ce souhait de la part du peuple. Il a placé Saül à la tête de son peuple. Saül est un homme grand, c'est un combattant, il a été choisi. Malheureusement, il va s'éloigner de Dieu. Progressivement, il se trouve régulièrement dans des états psychiques qui requièrent de la musique pour adoucir son moral. Il s'éloigne de qui il devrait être comme roi d'Israël. À ce moment, alors que la courbe de Saül descend de façon assez nette dans les récits, Dieu demande à Samuel d'oindre un jeune garçon, dernier de sa famille, teint pâle, pas de formation guerrière, gardant les moutons de son père. Vous aurez reconnu David, le bien-aimé. L'histoire qui nous intéresse ce matin est celle qui se trouve assez au début de cette courbe qui ascendante de l'histoire de David. Celle qui va commencer à faire de lui quelqu'un de connu, de reconnu par la cour royale notamment. Le chapitre de 1 Samuel 17 étant assez long, permettez-moi de le paraphraser légèrement en vous le racontant. C'est une partie seulement. Le décor se plante. Nous sommes entre Soko et Azeka, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Jérusalem, non loin de la ville philistine de Gath. Les Philistins campent fermement de ce côté de la montagne. En face, l'armée de Saül, dans la vallée du Chêne, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Bethléem. Les deux armées campent chacune sur un versant des collines, une vallée les sépare. La bataille promet d'être sanglante. La première armée qui essaye de s'avancer va forcément être à découvert et surtout en contrebas, donc en position de faiblesse vis-à-vis de l'armée opposée lorsque le combat s'engagera. En tant que lecteur, on attend un récit de bataille comme on en connaît déjà beaucoup dans la Bible. Les stratèges des deux armées réfléchissent et les Philistins trouvent une solution. Solution pas forcément choisie systématiquement à l'époque, mais plus ou moins avérée par les archéologues. Un champion est désigné pour aller provoquer l'armée d'en face. L'idée serait de réduire le combat à un duel, un corps à corps, un combat singulier. À l'époque, il est sous-entendu que chaque armée combat au nom de son dieu. Il ne peut y avoir de victoire que soutenue par le dieu le plus fort, d'un côté ou de l'autre. Donc, si le duel est gagné par le champion A et perdu par le champion B, alors c'est le dieu de l'armée A qui est plus fort que le dieu de l'armée B. Il est donc entendu que si le duel est remporté par le champion A, l'armée A va l'emporter sur l'armée B. Le duel ne dispense pas des combats qui viennent après, mais il indique fortement, très fortement la tendance. Donc là intervient le champion philistin. C'est un homme gigantesque, de près de 3 mètres, un local, vêtu d'une armure très lourde, rutilante, vraiment quelqu'un contre qui on n'a pas envie de se battre. Je lis dans 1 Samuel 17, les versets 4, ceux qui sont en rouge là, 4 à 7. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant de près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une soixantaine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Impressionnant, non ? Un vrai poids lourd champion toute catégorie. On passe à l'étape suivante obligatoire, le lancement du défi. Goliath pose les termes du combat. Il provoque, il se moque, il insulte. Il précise que les gars d'en face... Sophie, tu peux juste passer à la suivante. Il précise que les gars d'en face sont des esclaves. Finalement, quand être esclave de Saül ou esclave de Philistin, ça change rien. Il réclame de se battre contre un homme. Quoi, est-ce qu'il n'y a pas d'homme parmi vous pour vous battre ? Et la mise en scène est tellement impressionnante que le coup réussit. Les Israélites, Saül en tête, sont complètement démoralisés et surtout terrorisés. Ils sont complètement coincés, paralysés. Le Philistin les maintient sous pression. Il lance le défi matin et soir, tous les jours, 7 jours sur 7. Pas de répit pour la peur qui s'installe, bloquant l'opportunité de réfléchir à une solution ou de prendre du recul. On en est là dans le récit, en train de se demander comment les Israélites vont bien pouvoir se sortir de ce mauvais pas. D'ailleurs, ça fait 40 jours. 40 jours que le défi est lancé, 40 jours. Fin d'un cycle, il est temps que ça change. On en est donc là, donc, quand le narrateur nous envoie totalement ailleurs. Les surprises du récit ne vont faire que se poursuivre. Et une des clés de ce récit réside d'ailleurs dans l'élément suivant. Dieu est surprenant. Là, la seconde surprise après l'apparition de Goliath est la suivante. On quitte le champ de bataille pour retourner chez Isaïe, ou Jessé selon les traductions, qu'on avait déjà croisé dans les chapitres précédents. C'est l'homme de Bethléem qui a 8 fils, dont le petit dernier a été oint par le prophète Samuel. Le petit dernier, David donc, est berger pour les moutons de son père. Il vient d'une famille qui possède des biens, il est chargé de protéger le troupeau. Il est aussi engagé à la cour du roi pour ses dons musicaux. Il est adolescent, mais déjà bien au courant du fonctionnement du royaume, puisqu'il observe déjà de près les arcanes du pouvoir. Globalement, c'est un brave garçon, qui se fait apprécier de tous assez facilement, y compris du roi, qu'il prend en affection. Saül lui demande même de porter ses armes, nous précise le chapitre précédent. Bref, le père de David a ses trois aînés à la guerre. David, lui, n'est pas à plein temps à la cour royale. Il s'occupe toujours en partie du troupeau de son père. Il fait des va-et-vient entre ses deux jobs, en fait. Donc le père de David, qui ne bénéficie pas des services de Vosgemathin, du journal de 20h, ou de l'instantanéité triée pour chacun en fonction de ses centres d'intérêt de Google, envoie David aux nouvelles. Dis donc, t'apporteras bien cette galette et ce petit pot de beurre à tes frères et à leur chef, et puis tu me diras comment ils vont et quelles sont les nouvelles du front, merci. David trouve quelqu'un pour s'occuper de ses moutons, qu'il ne laisse tout de même pas vaquer sans surveillance. La région est plutôt dangereuse et pleine de prédateurs. Il obéit à son père et se met en marche le lendemain de bon matin, en emportant les provisions. Bon, c'était du pain, du fromage et du grain rôti en fait. Il arrive alors que l'armée de Saül se met en place face aux Philistins pour pousser son cri de guerre. L'armée est terrorisée, mais quitte à être là, autant leur montrer de quel bois on se chauffe quand même. David, hyper intéressé par la manœuvre, et surtout en mission pour son père, dépose de suite son chargement chez qui de droit et se dirige vers le lieu de la bataille. Il va pour demander des nouvelles de ses frères, et puis pendant qu'il discute avec eux, voilà Goliath qui s'avance, comme d'habitude. Et les Israélites, vous voyez qui est Pomme, mon chien ? C'est un golden, elle est adorable. Elle aime beaucoup courir après les poules. Vraiment, c'est vraiment fun pour elle. Par contre, si on est une poule, on est un peu terrorisé par Pomme quand on arrive. Ben, les Israélites, c'est un peu pareil devant Goliath. C'est un peu les poules devant Pomme. Bref, les Israélites s'enfuient. Et là, David entend que Saül offrirait une récompense à celui qui vaincrait Goliath. Mais pas n'importe quelle récompense. On est digne des plus grandes contes de fées. Richesse pour le gagnant et sa famille, main de la fille du roi, affranchissement de toute la famille, exonération d'impôts, de quoi motiver les candidats, enfin en tout cas ça a eu l'espère. David, lui, est relativement choqué par les insultes lancées par Goliath. Il se renseigne un peu mieux sur la situation, commence à poser des questions autour de lui. Alors que les Israélites voient en Goliath l'ennemi qui peut les détruire, David le considère avant tout comme celui qui s'oppose à Dieu, comme celui qui met au défi le Dieu vivant à travers de son roi. David continue de questionner, un peu naïvement. C'est un peu l'enfant du conte qui dit sans embâche que le roi est nu. David n'a pas du tout le même regard sur la situation que Saül et son armée. Ses frères se fâchent un peu avec lui. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit « Que viens-tu faire ici ? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe ? Je te connais bien. Moi, petit prétentieux, je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » Et David lui répondit « Qu'est-ce que j'ai fait demain ? J'ai plus le droit de parler maintenant ?» Puis, il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat. Et on lui fit la même réponse que la première fois. L'armée ne tolère pas qu'un berger sans formation militaire avérée s'occupe de ses affaires. En plus, le petit dernier qui vient en remontrer au grand, ça va 5 minutes. Hein. Mais David ne se démonte pas, ne se laisse pas décourager. Il observe, continue de poser des questions, tant et si bien que l'affaire arrive aux oreilles de Saül lui-même. Le pouvoir royal a complètement fondu dans cette situation. Le roi est tellement désespéré qu'il est prêt à envoyer ce petit berger contre le puissant Goliath. C'est l'image qu'on a de ce combat. Des forces vraiment très mal réparties. Le géant contre l'adolescent, la machine de guerre contre les cailloux. Pourtant, Saül est prêt à accepter que David relève le défi. David se présente comme le serviteur. Serviteur de son père, serviteur de son frère, serviteur du roi, mais aussi et surtout serviteur du Dieu très haut. Saül objecte, oh, t'es qu'un gamin, Goliath c'est un homme de guerre, surentraîné depuis sa jeunesse. Deux visions du monde s'affrontent. Saül, celui qui probablement aurait pu et aurait dû affronter le Philistin, ne compte que sur la force guerrière. Un gamin ne saurait se risquer à ce combat dont aucun autre homme n'a voulu. Et si vraiment il veut aller à la mort, alors dans ce cas, il sera un simulacre du roi lui-même. Un mini remplaçant, un petit guerrier porteur des armes même du roi, des armes disproportionnées bien sûr. Ce mini remplaçant est presque une offrande au dieu du Philistin. Saül en rajoute, lui, l'homme grand, le guerrier, il charge, il surcharge David, espérant peut-être le protéger avec son équipement. Mais son équipement étouffe David. David, lui, mesure la question du point de vue de son métier de berger. Goliath est « entre deux », dit le texte hébreu. Ce terme qu'on traduit par « champion », c'est un « entre-deux », celui qui va entre les deux camps pour provoquer. David le voit comme l'entre-deux entre l'homme et la bête. L'homme entre-deux, c'est à peine un humain pour David, plutôt une bête féroce que tout gamin qu'il soit, il a l'habitude d'affronter. Et plus encore, il s'agit pour David d'un combat dont Dieu est en fait le combattant. Dieu, qu'il a délivré de la griffe du lion et de l'ours, saura bien le délivrer aussi de la griffe du Philistin. David laisse donc tomber les armes de guerre de Saül. Il ne sera pas le représentant du roi, mais il sera bien le représentant de Dieu, le berger d'Israël. Bâton et fronde, de quoi guider et faire face, à distance, à la bête qui prétend menacer le peuple et son Dieu. On arrive au face-à-face entre David et Goliath. David prend 5 pierres dans le torrent et va affronter le géant. Il laisse Goliath lancer ses insultes. David répond qu'il combat pour l'Éternel afin que tous sachent qu'Israël a un Dieu. Le Philistin s'avance. David court vers lui, arme sa fronde, envoie son caillou. Le caillou atteint son but et terrasse le guerrier. David l'achève. L'armée poursuit les Philistins. C'est la victoire pour les Israélites. La fin du chapitre, encore une fois Sophie, la fin du chapitre nous montre Saül qui discute avec son général Abner. Ça y est, David a effectué un acte suffisamment héroïque pour entrer dans la ligne de mire du roi. Saül se demande qui est ce jeune berger. Lui et son général ne peuvent pas le situer. David a beau avoir travaillé dans l'entourage du roi, il n'a pas encore été introduit dans les plus hauts milieux. Après ce combat, c'est chose faite. David ne rentrera plus chez son père, mais il habitera chez Saül. Il deviendra un ami très proche de Jonathan, fils de Saül, et Saül nommera David assez rapidement au commandement de ses troupes. L'ascension de David est accélérée après cet exploit. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce récit ? Au-delà du fait qu'il est percutant, plein de retournements de situation et de surprises pour le lecteur, un bon récit comme on les aime, qu'il est facile à raconter aux enfants en colo ou en école du dimanche. Tout d'abord, et je l'ai souligné tout à l'heure, en vous racontant l'histoire, Dieu est surprenant. C'est toujours hallucinant de percevoir la main de Dieu ou la présence de Dieu dans des situations où on ne l'attend pas. Et c'est valable aujourd'hui encore. Je suis tombée malade en 2014, assez gravement, et la maladie a dû être contenue avec un traitement qui s'est avéré vraiment lourd de conséquences d'un point de vue physique et psychique. En 2016, poussée par les conseils croisés de plusieurs personnes et fatiguée par un suivi médical beaucoup plus qu'approximatif, j'ai contacté l'hôpital de Reims. J'y suis allée en consultation avec ma maman et je me souviens que nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre. C'était sur ce chemin une sorte de pas de foi pour enfin trouver un remède un peu plus vivable sur le long terme. Je me souviens de la surprise et de l'émotion de maman quand tout d'un coup on s'est arrêté au détour d'un couloir et on a trouvé ce panneau, centre de référence des maladies bulleuses auto-immunes. C'était un vrai clin d'œil de Dieu pour moi qui disait « Tu vois, vous pensiez que vous étiez vraiment les seuls dans la spécificité de votre situation, mais j'ai préparé quelqu'un pour t'aider. Vous êtes au bon endroit. Même si ça vous paraît totalement fou d'aller ici, continue, c'est bon, ça ira bien. » C'était un joli point de départ à la rémission actuelle de cette maladie. Dans notre histoire de ce matin, de la même façon, Dieu n'est pas visible. Il n'y a pas de nuée de feu, comme lorsque Dieu accompagne visiblement les Israélites à la sortie d'Égypte. Dieu aurait pu choisir d'être visible, en fait. Cela est surprenant, dans un sens. Dieu n'est pas visible, mais il agit. Il agit pour son honneur, pour la gloire de son nom, et aussi pour la continuité de son plan, pour sa création. Pour cela, il utilise des moyens intrigants, inattendus, comme un jeune berger pour faire face à un guerrier surentraîné. Dieu se fait reconnaître et connaître dans cette manière d'agir surprenante. Alors peut-être peut-on retenir ceci. De façon toujours surprenante, Dieu peut surmonter tous les obstacles. Faisons-lui confiance. D'autre part, Dieu est capable d'accomplir de grandes choses en se servant d'un instrument fidèle, même si celui-ci est en position de faiblesse. Oui, Dieu est un Dieu fiable, en qui on peut se confier. Dieu est fiable, entre autres, parce qu'il prépare les choses et les gens. Dans notre récit, on ne va pas se mentir, David est en position de faiblesse, ça paraît évident. Mais si on observe d'un peu plus près la situation, on se rend compte assez rapidement que David avait été bien préparé pour ce face-à-face. Il n'était sans doute pas aussi vulnérable et inexpérimenté qu'on ne le perçoit au premier abord. David se connaissait lui-même, connaissait sa force. Il a combattu des animaux sauvages pour sauver des moutons de leurs crocs. Il est totalement prêt à anticiper la force brute de Goliath. Finalement, pas plus impressionnant qu'un ours ou qu'un lion. Et puis, David connaît le fonctionnement de l'armée. Il a pu observer déjà. Ses grands frères ont sans doute raconté des choses. David est porteur des armes de Saül, donc c'est un apprenti guerrier avec de grandes compétences militaires. Et puis la fronde de David était une des armes les plus meurtrières de l'époque. En effet, l'armée antique comptait trois types de soldats. Le cavalier, qui combattait à cheval ou dans un char. Le fantassin, comme Goliath, soldat d'infanterie, qui combattait à pied, muni d'une armure, d'une épée, d'un bouclier. Et l'artilleur, qui combattait au moyen d'armes de jet, parfois l'arc, mais surtout la fronde. Le frondeur était muni d'une poche de cuir, à chaque extrémité de laquelle était attachée une longue corde. Il y mettait une pierre ou une balle de plomb et la faisait tourner de plus en plus vite, selon des cercles de plus en plus larges, avant de lâcher l'une des cordes pour projeter la pierre au loin. Le maniement de la fronde exigeait une habileté extraordinaire et énormément d'entraînement. Mais dans des mains expérimentées, c'était une arme dévastatrice. Les peintures du Moyen-Âge montrent des frondeurs attrapant des oiseaux en plein vol. On dit des frondeurs irlandais qu'ils pouvaient atteindre une pièce de monnaie à vue. Et selon le livre des juges de l'Ancien Testament, le degré de précision de ces guerriers se calculait à un cheveu près. Un frondeur chevronné pouvait tuer ou blesser gravement une cible située à 180 mètres de distance. Les experts en balistique actuelle précisent que la vitesse du caillou lancé par la fronde de David a pu atteindre 108 km/h. Soit l'équivalent d'une balle de pistolet actuelle. C'est une donnée qu'on a déjà entendue ici, papa il l'avait déjà évoquée quand il avait prêché sur ce texte il y a quelques années. Lourd fantassin, Goliath s'attend à combattre un autre soldat d'infanterie. Les compétences de David montrées dans le récit le situent plutôt dans le type des artilleurs. C'est pas du tout le même type de combat et du coup ça devient totalement inégal. Mais inégal pour David. Petite pause BD pour réfléchir à tout ça. C'est extrait des Peanuts, donc des BD qui font Snoopy. On voit le garçon avec sa couverture se prendre une boule de neige. Les autres garçons se moquaient un peu de lui. Lui utilisait sa couverture comme une fronde et renverser les deux autres garçons qui se disent ben, peut-être qu'on se rend compte maintenant comment Goliath a ressenti la situation. Et puis David refuse l'armure de Saül, ce qui accroît sa mobilité, face à Goliath qui porte une armure dont on peut estimer le poids à plus de 60 kg. Difficile pour lui de bouger, ce qui explique pourquoi Goliath marche, tandis que David court, que Goliath demande à David de venir vers lui dans ses paroles. La mobilité de David lui offre l'avantage face à la taille et à la non-mobilité de Goliath. D'ailleurs, la taille elle-même de Goliath a joué contre lui. Le gigantisme est une maladie connue qui cache de grandes faiblesses. Il s'agit d'une tumeur qui produit des hormones de croissance sans discontinuer. Cette tumeur peut notamment toucher le nerf optique en grandissant, provoquant des troubles de la vue. Ainsi donc, le combat entre David et Goliath n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. David, le politicien, celui qui sait saisir les opportunités pour les tourner à son avantage, l'homme rusé et intelligent, a su observer, analyser et utiliser les informations que le reste de l'armée, ainsi que Saül, n'a pas su discerner. David a su utiliser tous les éléments préparés par Dieu pour gagner ce combat. Ainsi, le plan de Dieu a pu poursuivre sa route. Je pourrais très bien maintenant me cantonner à faire le pont avec nos vies d'aujourd'hui en nous proposant de nous confier en Dieu dans nos combats contre nos Goliaths personnels. Peut-être que nos problèmes personnels, c'est un problème au travail, un problème dans la santé, un problème relationnel, un manque, une blessure. Alors oui, Dieu nous accompagne dans toutes ces phases de nos vies. Oui, Dieu agit. Oui, Dieu nous prépare à affronter les différentes situations qu'on rencontre. Oui, nous pouvons nous confier en Dieu dans des situations qui nous dépassent. Cependant, le texte de ce matin dit quelque chose de plus profond et plus fondamental. Faisons encore un pas de plus. Le texte dit principalement que David s'est confié en l'Éternel pour être délivré de la main du Philistin, et Dieu a été avec lui. En fait, ce n'est pas David le héros de cette histoire, c'est Dieu. Encore une fois, Sophie ? Oui, merci. L'intention de l'auteur est bien de nous rappeler cela à travers les paroles de David, toujours centré sur la confiance de l'Éternel. Qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée ? Qui est ce Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant ? Et puis, il faut abattre ce Philistin car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Et puis, face à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. À chaque fois, David témoigne avec force de qui est Dieu pour lui et pour le peuple. Et puis, la vision du monde de David est radicalement différente de celle de Saül et d'Israël, et même de celle des Philistins. Là où les Israélites voient un soldat intimidant et invincible, David observe de la défiance blasphématoire et un païen dont le seul pouvoir est la force humaine. Les Israélites sont paralysés par la peur, le pouvoir royal et militaire fond. Du coup, Israël se considère comme une proie pour le Philistin. Il n'y a pas d'homme pour relever le défi. David, lui, est prêt à l'action pour vaincre l'ennemi. Alors que Saül est désespéré et ne voit plus d'issue, David perçoit peut-être déjà l'opportunité de vaincre les Philistins et de poser des jalons pour lui-même au service du roi, voire à sa place. Puis la vision du monde de Goliath est aussi en cause. À ses yeux, le monde se partage entre deux types d'hommes, les maîtres, les esclaves. Il est arrogant, agressif, ironique. Son discours fait sentir aux adversaires qu'ils n'ont pas d'autre choix que de la débâcle, l'esclavage et la honte. David, lui, ne se laisse pas paralyser. Il va et il vient, du roi à son père, de ses moutons à ses frères. Il est mobile et non aux abois, comme une bête acculée. Il voit l'armée des Israélites comme un troupeau à guider et à protéger. De même qu'au chapitre précédent, Samuel a dû regarder avec les yeux de Dieu pour choisir le prochain roi, c'est-à-dire non pas à l'apparence mais au cœur, ici David dépasse l'apparence et regarde au possible, avec pour appui le nom de l'Éternel. En fait, cette histoire peut nous inviter à changer de vision sur le monde. Elle nous encourage également à chercher à défendre le nom et la réputation de Dieu autour de nous. Elle nous invite, une fois de plus, à mettre Dieu au centre de nos vies et à le mettre en premier. C'est une jolie phrase, hein, mettre Dieu en premier, n'est-ce pas ? C'est une phrase qui, en toute franchise, me pose pas mal de questions. Et je vais vous en laisser quelques-unes. Est-ce que mettre Dieu en premier, c'est parler de Dieu 24 heures sur 24 ? Témoigner, comme on dit, dès qu'on ouvre la bouche ? Avec une compréhension très littérale de Deutéronome 6, versets 7 et suivants. Vous savez, tu inculqueras ces commandements à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, que tu te lèveras, etc., etc. Ce verset qui vise à la base avant tout à édifier le peuple de Dieu, Est-ce qu'on le transforme pour donc avoir pour objectif de faire du chiffre, de ramener tant de personnes à l'église avec nous chaque dimanche? Une amie me parlait cet été d'une implantation d'église dont les responsables encourageaient les membres dans cette voie, désapprouvant ceux qui n'arrivaient pas à emmener deux personnes différentes chaque dimanche au culte avec eux. Rappelons-nous que nous portons le témoignage de Dieu par nos attitudes en tout temps, dans nos actions et nos temps de repos. Nos vies, au-delà de nos paroles, sont un témoignage de l'amour de Dieu pour la création. Est-ce que mettre Dieu au centre, c'est entrer dans un fonctionnement légaliste où je culpabilise si je n'ai pas casé 3, 4, 5 heures de lecture, de prière, de méditation dans la journée, et puis un jour de jeûne par semaine? Après tout, si Dieu est supposé être en premier dans ma vie, je devrais bien lui consacrer au moins ce temps-là. Oui, mais le quotidien, le travail, les relations avec les amis, la famille, les loisirs, nos journées se remplissent. Bien souvent, malgré des bonnes résolutions prises, tiens, à l'occasion de la rentrée, ou du nouvel an, ou de notre anniversaire, les semaines passent et nous éloignent de nos bonnes intentions initiales. Et puis on hésite à revenir vers Dieu, plein de honte à l'idée de l'avoir laissé tomber. Peut-être un état d'esprit pour nous encourager dans ces moments inévitables où l'on s'éloigne de Dieu pour un temps, plusieurs jours ou deux minutes à être perdu dans ses pensées alors qu'on avait prévu de consacrer ce temps à prier. Simplement, revenons. Dieu est toujours là et nous sommes toujours accueillis. Est-ce que mettre Dieu au centre, c'est donner tout mon argent, tout mon temps à des œuvres en son nom? Nous chantons parfois « Je te donne tout, oui, prends tout Seigneur, tout ». C'est toujours un peu excessif comme adverbe, de toute façon. Un peu comme dans cette dernière phrase qui généralise. La réalité et nos cœurs humains réagissent un peu comme ce jeune homme riche qui demande à Jésus comment faire mieux et qui s'en va tristement à la réponse. Jésus, pourtant, garde tout son amour pour lui. Là encore, il s'agira de discerner ce que dans ma vie, aujourd'hui, Dieu m'appelle à faire. C'est pas la même chose que mon prochain et c'est pas la même chose si mes circonstances changent. 2 Corinthiens nous rappelle que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. L'équilibre est parfois difficile à trouver dans chacun des aspects concrets de notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui? On voit dans ce texte ce matin que Dieu se révèle à nouveau à nous, que c'est un Dieu surprenant, un Dieu fiable et un Dieu que je veux mettre en premier dans ma vie. Dieu m'offre de changer ma vision du monde. La Bible tout entière nous parle de Dieu et de la part de Dieu. Il ne nous laisse pas sans direction. Le connaître mieux nous entraîne à réfléchir à nos vies. Alors je voudrais nous laisser ce verset de Michée, chapitre 6, verset 8, qui est un programme en soi. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu te conduises avec justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen.